Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International, comme chaque jour sur la radio mondiale. Et pour retrouver ce feuilleton de l'été, le mondial des clubs, c'est la fin des huitièmes de finale. Les derniers européens, le Real Madrid et le Borussia Dortmund, n'ont pas manqué leur rendez-vous. Se qualifiant pour le prochain tour, les Merengues ont-ils trouvé le buteur qui leur manquait avec Gonzalo Garcia, déjà comparé à Raúl? Peut-on percevoir l'influence de Xabi Alonso sur cette équipe? Et puis Dortmund, les jaunes et noirs sont toujours portés par leur buteur guinéen, Serhou Guirassy. Cette première édition du Mondial des clubs, toujours critiquée, est-elle sans lendemain? Jürgen Klopp lui veut du mal, mais les gains mirobolants peuvent supplanter l'intérêt sportif. Ce mondial des clubs, une répétition générale de la Coupe du Monde à venir ou pas? L'édition de 2026, élargie à 48 équipes sur 3 pays, Mexique, Canada, États-Unis, s'annonce démesurée. Et le président Donald Trump veut jouer les chefs d'orchestre. À quel point notre spécialiste en géopolitique du sport et du foot, Kevin Vessière, que vous connaissez déjà sur RFI. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Il est là dans notre studio en direct et il nous donnera son point de vue, son analyse, surtout sur cette compétition à venir et surtout aussi sur celle qui se déroule. Mais dans ce studio, il est de retour des antipodes pour quelques semaines seulement, mais on en profite. Bonjour Carlos Bianchi.
Bonjour, plaisir d'être avec vous.
Bah oui, nous aussi. Plaisir de vous retrouver dans ce studio. Nabil Djellit est à vos
bonjour
côtés.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Nabil et puis Ludovic Duchesne.
Bonjour Ludovic. À toutes et à tous.
Celui qui commente tous les matchs de ce mondial des clubs, qui les voit tous et qui a plein de détails. Thomas de Saint-Léger nous reviendra faire un tour dans l'émission parce qu'il rentre des États-Unis. Il arrive justement de ce mondial des clubs et il nous dira ce qu'il a pu voir. David Finzen m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Se perfila para centrar el rechace defensivo, le llega a 30 Alexander Arnold, la pone Alexander Arnold.
Le Real valide son ticket pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde des clubs. La déception de Kolo Muani mais la satisfaction de Xabi Alonso. Le Real sera dans le top 8 de ce mondial.
Les Merengues au rendez-vous, sans doute rendus méfiants hein, par rapport aux mésaventures d'équipes européennes autres comme l'Inter ou Manchester City, sortis prématurément, eux aussi pourtant venus aux États-Unis pour se refaire une santé. Le Real Madrid a pris la Juventus au sérieux dans un match appliqué et c'est un jeune buteur de 21 ans, Gonzalo Garcia. Est-ce qu'il est la bonne trouvaille du Real Madrid pour cette compétition, Ludovic Duchesne, et pour la saison prochaine?
Là, on voit ceux qui viennent d'arriver, comme Huijsen, Alexander Arnold, et qui déjà changent un peu, je trouve, la dynamique de cette équipe. Mais là, c'est sûr que ça tombe un peu du ciel, cet avant-centre. Alors, il est très jeune.
Il a 21 ans.
Donc, il va falloir.
Il a été formé au Real, donc on l'a trouvé un peu dans les rangs de ceux qu'on a formés. Et c'est pas une spécialité Madrid.
Il a un culot monstre et surtout on sent, et là Carlos s'en parlera mieux que nous, on sent que c'est un buteur. Il a ça dans la peau. Je pense que Carlos avait ça dans la peau. Et là, c'est vraiment le but.
Je crois qu'il l'a toujours même.
Ouais.
Heureusement, sinon, je n'aurais pas mangé.
Voilà, il a bien mangé, Carlos, qu'il a marqué beaucoup de buts. Mais il a ça, Gonzalo Garcia. On sent que voilà, il a le but. Le but qui marque justement sur ce huitième de finale, c'est ce but de la tête. Il est magnifique. Et ce sera forcément un plus. Je ne pense pas qu'il sera titulaire dans cette équipe, en tout cas pas au début, mais c'est un vrai plus et c'est un petit peu de chance pour que Xabi Alonso, tant mieux.
Est-ce attention, que... tu sais pourquoi? S'il joue lui, il ne joue pas Mbappé. Hein.
Ouais.
Attention, hein.
Pour moi, Mbappé,
c'est un des meilleurs attaquants du monde.
Mais Carlos, d'abord sur la comparaison avec Raoul, est-ce que c'est déjà exagéré? Il a 21 ans, il fait quelques premiers matchs et tout de suite, cette étiquette.
On a toujours l'habitude de comparer avec quelqu'un. Mais
c'est une bonne
Raoul,
comparaison.
C'était un grand. Hein,
bah oui, parce que dans l'histoire du Real, oui.
Oui, mais tu sais comment? Lui, il était joueur de football d'Atlético Madrid, Raoul. Comme Gil, il arrêtait avec les divisions plus petites, Raúl, il a fait un essai au Real Madrid, il a resté au Real Madrid, mmh. en étant supporter d'Atlético Madrid. Incroyable, c'est un grand joueur, lui.
Alors, ouais. ce Gonzalo Garcia, comment vous le
il
trouvez?
Il a des qualités, mais il a tout l'avenir devant lui.
Il a tout à apprendre encore, c'est ça?
Il faut voir si on lui donne la possibilité, parce qu'Mbappé, il ne va pas vouloir laisser la possibilité.
Oui, mais Carlos...
Mais là, oui, c'est la réalité, elle est là.
Le Real Madrid, ils avaient José Lu, par exemple.
C'était différent, c'était à la fin de sa carrière, et c'était un avançant très typique. Grand joueur de tête, quand tu mettais des ballons dans les 18 mètres, lui, il allait. C'était quelqu'un très, très, très costaud. Mais par contre, celui-là, non. Celui-là, il ressemble plus au physique de Raúl.
Mais il a marqué de la tête.
Oui, oui. Ce qu'il a fait de bien, tu sais quoi? C'est qu'il a mis la tête du côté d'où vient le ballon. Le ballon, il venait là-bas, il a fait comme ça. Le gardien, il vient comme ça, tu le prends à contre-pied. Ça, ce sont des petites techniques que tu dois avoir de bon but.
Nabil, est-ce que ça veut dire qu'au Real Madrid, où déjà il y a un sacré embouteillage en attaque, ça risque de se compliquer encore? Parce qu'on a Hendrick. Vinicius, on a Mbappé, on a Rodrigo, on a Hendrick,
Güler. Brahim Diaz, qu'il ne faut pas oublier.
Brahim Diaz, et maintenant, c'est quand même un empilement démesuré.
Bah, en tout cas, ce qui est clair, c'est que en fait, lui, il crée les conditions pour mettre son entraîneur dans une forme de réflexion. Il saisit sa chance, il fait le boulot et il va pousser le club à réfléchir, à savoir ce qu'ils vont faire de lui ou pas. C'est-à-dire que
de lui ou des autres, c'est ça ?
Bah lui, déjà initialement, il était prévu qu'il parte au Celta Vigo, dans ce qu'on m'a dit. Vous avez raison de rappeler que c'était le meilleur buteur de la réserve devant un jeune Camerounais, Karl Etayong, que j'aime bien citer de temps en temps. Et donc en fait, il a su saisir sa chance. Mais celui qui met en difficulté, c'est pas Mbappé, c'est Hendrick, surtout le Brésilien, qui en fait. Celui qui est en fait le substitut, enfin le remplaçant numéro un au poste d'attaquant de Kylian Mbappé. Mais c'est ça aussi l'histoire du football. C'est parfois un gardien qui est blessé, un numéro 2 qui arrive et qui enchaîne des parades et il n'était pas prévu qu'il joue et qu'il lance sa carrière comme ça. Ça se trouve, lui, il vient de lancer sa carrière et que ça va être une belle carrière et il aura saisi une opportunité.
Ou même Rodrigo, Nabil, qui ne joue plus, Rodrigo.
Alors, Rodrigo, c'est une autre utilisation, il est plus sur le côté.
Il est carrément à droite, mais je veux dire, plus, dans un autre schéma maintenant, Xabi Alonso, c'est plus un 4-4-2, en tout cas, ça ressemble, ou derrière même à 3, il change un peu tactiquement ce qu'on avait l'habitude de voir au Real. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ce que propose Xabi Alonso.
Est-ce qu'on la voit déjà, cette influence de Xabi Alonso au bout de parce que c'est très peu de matchs finalement.
L'influence, oui, peut-être, parce que déjà, les joueurs, ils jouent au système qu'il veut lui. On va voir le résultat
Carlos,
après.
Le pressing que font aujourd'hui les joueurs du Real, on ne le voyait pas l'année dernière. Donc déjà, on le voit là. C'est ça la grosse différence. Ils ont joué à 3 derrière. Avec Ancelotti, je crois qu'ils n'ont jamais joué à 3 derrière.
Je ne crois pas qu'ils auront la technique qu'ils avaient Modric et Kroos.
Non, ça ne s'achète pas.
Le Real Madrid n'aurait plus jamais deux mecs qui jouent si bien au football ensemble. C'était extraordinaire comme vous jouez.
Ah oui,
c'est pour ça qu'ils ont gagné combien ? 6 Coupes d'Europe, ils sont gagnés ?
Ah non, plus.
Ancelotti
et Zidane. Parce qu'ils sont arrivés, ça fait longtemps.
Ah oui, les deux, là.
Depuis la décima, ben oui,
Modric,
c'est 5.
Il est arrivé, ça fait plus de 10 ans.
10, 11, 12.
Ça fait plus de 10 ans qu'il est arrivé, Modric.
En tout cas, c'est avant 2012. Modric, donc
En tout cas, c'est une révélation, c'est clairement une révélation de la compétition, ce jeune attaquant. Donc, on va le surveiller de près. Et puis, quand tu fais des choses avec le Real, c'est vu de manière beaucoup plus importante. Et, d'ailleurs, on en parle. Si c'était l'attaquant de Monterrey qui avait fait exactement la même chose, avec les mêmes qualités, le même joueur, est-ce qu'on passerait 5 minutes sur lui?
On a plus vu un défenseur du côté de Monterrey, mais on va en parler.
Gens, lui.
Mais encore que certains sont en train de briller. On a parlé hier de Al Hilal et de certains de ses joueurs. Alors, certes, pas forcément saoudiens, parce que le saoudien, en plus, était blessé. Mais par exemple, les Brésiliens, qu'on ne connaît pas bien.
Marcos Leonardo, par exemple.
Exactement.
Il a fait un très bon match.
Kylian Mbappé, il est revenu dans l'effectif. On sait qu'après sa saison plus que réussie du côté du Real, même s'il a été beaucoup critiqué, mais en tout cas, du point de vue comptable, meilleur buteur pour son équipe et même d'Europe, puisqu'il est soulier d'or. Est-ce que Kylian Mbappé est revenu à son top? En tout cas, on va l'entendre, les adversaires ont vu la différence. Écoutez Igor Tudor, l'entraîneur de la Juventus qui jouait donc hier soir et qui a perdu 1-0 face à ce Real Madrid.
Ce qui change avec l'entrée de Mbappé, Écoutez, vous conduisez une voiture, c'est comme si le Real Madrid allait à 200 km/h. Avec Mbappé, elle se met à rouler à 250. 200, c'est déjà assez rapide, non? Mais avec Kylian, c'est 250.
Mbappé, 250.
Carlos, c'est ça, Kylian Mbappé, c'était la vitesse avant, on se souvient de 2018, oui. la Coupe du Monde contre l'Argentine, et c'est toujours sa force.
C'est toujours sa force, mais il faut qu'il trouve les espaces. Mm-hmm. Parce qu'attention, quand vous contrôlez beaucoup le ballon, lui, il n'a pas beaucoup d'espace après pour profiter de sa vitesse. Le problème, il est là. Quand vous touchez, c'est comme on arrive à Haaland, à Manchester City. Mm-hmm. C'est la même chose. On touche tellement le ballon que lui ne sait pas où se placer. Et Mbappé, ça met dans
l'angle. Erling Haaland, pardon.
Haaland, excusez-moi la prononciation.
Non, mais...
bon, et lui, il y a des fois qu'il ne se trouve pas la place pour jouer. Et Mbappé, ça l'arrive, la même chose. Quand il touche les ballons, tout le monde, lui, il ne sait pas où se placer. Parce que lui, c'est un joueur direct. Il faut filer le ballon devant lui, 30, 40 mètres.
Ouais. Nabil, est-ce qu'il est revenu hier, on le dit, plus amaigri par ces quelques jours de maladie récente quand il était aux États-Unis. Est-ce que vous l'avez vu performant hier?
Non, pas vraiment au niveau auquel on l'a connu, quoi, tout simplement.
Bon, il est rentré tard dans le match,
oui.
65e, je crois.
Là, c'est de la reprise, c'est de la reprise de rythme. Ce qui va être intéressant, c'est le prochain match et savoir s'il va être titularisé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est, on en parlait avant, ce jeune attaquant qui marque des points. Alors bon, pour qu'il devienne titulaire, ça veut dire que Mbappé n'a aucun crédit. Je pense qu'on n'en est pas là. Je pense que c'est une menace pour d'autres joueurs,
oui, je pense,
dans ce secteur de jeu. Non, mais ce qui va être intéressant, c'est aussi... tu en parlais tout à l'heure, la qualité du pressing, parce qu'il est attendu à ce niveau-là. La dernière fois, il y avait une question sur Vinicius, qui avait fait un bon match et qui avait été décisif. Et je me souviens que l'entraîneur avait plus parlé de son jeu sans ballon, son jeu avec ballon. Et il disait, j'espère que ça va être pareil avec Kylian et je suis sûr qu'ils peuvent le faire ensemble. Mm-hmm. Donc en fait, les attentes aujourd'hui, bon, c'est terrible, hein, mais c'est comme ça. C'est avant tout de savoir, est-ce qu'il va matcher, est-ce qu'il va être compatible avec ce qu'attend l'entraîneur. Donc voilà, en fait, ce qu'on va lui demander, c'est de faire plus de 6 km par match sur le terrain. On va lui demander de faire ce que font aujourd'hui les joueurs du Paris Saint-Germain, là où il est passé, c'est de changer aussi en partie sa manière de jouer, non pas avec le ballon, mais aussi sans le ballon. Donc c'est un garçon qui est intelligent, c'est un garçon qui a envie de gagner. Moi, je ne vois pas pourquoi, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, je ne vois pas pourquoi il ne se mettrait pas à la page de ce que lui demande son nouvel entraîneur.
Ludo, vous qui avez vu le match, comment vous l'avez vu l'entrée de Kylian?
J'ai trouvé qu'il avait fait une bonne rentrée. Alors, c'est
parce
vrai que
ça fait longtemps qu'il n'a pas joué.
Plus amaigri que jamais, il faut dire la vérité. Très fin du coup, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Non, mais je trouvais qu'il avait fait une bonne rentrée et surtout qu'il s'est mis tout de suite au diapason. Et ce que dit Igor Tudor, c'est un peu ça. C'est que déjà, dès qu'il a été s'échauffé, il y avait dans le stade, Carlos, il s'est passé... Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Tout le stade a ressenti, il s'est passé quelque chose avec Mbappé. Quand il est rentré sur le terrain, même si, tu vois, il ne fait pas forcément deux, trois petites choses au départ, il n'est pas décisif, je pense que pour l'équipe adverse, il y a déjà Mbappé qui est sur le terrain et ça change énormément de choses. Et il a beaucoup couru, il a beaucoup pressé. Donc je pense que peut-être qu'on va voir, et Xavier Alonso l'a dit, tous les joueurs devront faire ce travail désormais. Donc c'est ça, Vinicius aussi a beaucoup travaillé hier. Donc ça, c'est intéressant, ça va délester Valverde qui a été... exceptionnel
excellent.
Hier,
homme
vraiment
du
très très bon, voilà.
Homme du match.
Bellingham, comme d'hab, a été très bon. Donc ça va permettre aussi à cette équipe, à ces joueurs, de faire peut-être plus de pressing, d'aller un peu dans tous les sens, et ça sera d'autant plus difficile pour les adversaires.
Carlos, vous, votre regard d'athlète et d'ancien athlète, quelqu'un comme Kylian Mbappé, on imagine qu'un nouvel entraîneur arrivant, c'est pas impossible qu'il se transforme d'une certaine manière et qu'il joue de la manière qu'on attend de lui.
Il faut savoir ce qu'il attend de lui, l'entraîneur. C'est là la question.
Mais on sait comment il aime
que
ses joueurs évoluent.
Non, parce que lui, là, peut-être il veut faire que son équipe il joue d'une façon qu'il faut voir si Mbappé il peut s'adapter. Mmh.
Mais vous pensez qu'il peut?
Moi, je crois qu'il a toutes les qualités. Il est 24 ans, 25 ans, il a.
Ah oui,
il est jeune.
25.
25, oui.
Non, mais il a pris des mauvaises habitudes au PSG parce qu'il s'est regardé avec Messi et Neymar et aucun ne voulait faire des efforts. Tout simplement, chacun carottait. Et puis, tu avais Di Maria qui courait pour les autres. Lui, Di Maria, lui, il trichait pas. Et les autres, enfin, Messi, de toute façon, si tu as Messi dans ton équipe, bah, tu acceptes de courir pour lui. Et c'est ce que n'a pas fait en grande partie Mbappé, quoi.
Parce que quand on parle de Luis Enrique, il a fait courir à tout le monde ici à Paris. Avant, il n'a pas fait. D'accord ? Cette année, il a fait courir à tout le monde. Mais quand lui, il a pris Barcelone, Messi, il ne courait pas. Il jouait toute sa vie, il a joué de la même façon. Sauf que Messi, il avait été champion d'Europe avant qu'il arrive Luis Enrique.
Et oui.
Alors, tu ne peux pas le dire. Donc, tu n'allais pas le mettre à dehors à Messi, quand même.
Non, mais avec l'envie qu'il avait de jouer au Real Madrid, on imagine qu'il va tout faire pour y rester.
Mais
pour être dans...
Mais lui, c'est un pompon. Donc, on s'inquiète pas.
Il a déjà mis 40 buts la saison dernière.
Non, mais oui, c'est devenu.
43, je crois.
Je pense que même le Real est devenu un peu dépendant de Mbappé. On le voit, quand il est là, c'est pas la même équipe.
Maintenant, il faut gagner des titres.
Il marque les buts et l'année prochaine, l'objectif, c'est de gagner.
Il dépend de Mbappé autant que de Vinicius.
Oui.
Vinicius, pour moi, c'était un autre phénomène.
Mais hier, on voyait une certaine entente entre les deux. Dans le match.
Ils se sont beaucoup cherchés.
Parce que Vinicius, il joue beaucoup plus pour Mbappé que Mbappé pour Vinicius.
Ouais. Ouais. Mais hier, c'est pas évident. Mais en tout cas, les deux.
Ah oui, hier, il a fait un dribble. Ça passe. Qu'il a dribblé, qu'il a centré, et Mbappé n'a pas arrivé.
Oui, c'est vrai, mais. Bon, après, je pense qu'ils veulent. Comme Neymar jouait avec Mbappé.
Neymar joue avec Messi.
Que tous les grands joueurs aiment bien jouer ensemble aussi et aiment bien se trouver.
Neymar, il joue au poker, très bien.
Bon, allez, laissons Neymar tranquille du côté de Santos.
Il a d'autres soucis.
Où il a prolongé son contrat. Le Real retrouvera le Borussia Dortmund au prochain tour.
Rami Ben Sebaini avec Serhou Guirassy. Oh oui, l'excellent mouvement! Ça, c'est un mouvement de classe entre Adeyemi et Serhou Guirassy.
Serhou Guirassy, es mangelte bislang etwas an.
Avec Serhou Guirassy, une connexion parfaitement établie. Adeyemi, Serhou Guirassy.
Guirassy, zweiter Abschluss aufs Tor, zweiter Treffer. Doppelpack, Serhou Guirassy.
C'est une victoire du Borussia Dortmund qui rejoint. En quart de finale, le Real Madrid. Serhou Guirassy, grand bonhomme de cette partie, a mis un doublé.
Et oui, c'était l'homme du match. Parce que les jaunes et noirs de la Roux sont qualifiés eux aussi pour le prochain tour en battant ce club mexicain de Monterrey. Alors même si les derniers gestes ont été dangereux jusqu'au dernier moment, notamment non pas
avec
grâce
Sergio
à un Mexicain,
Ramos, ouais.
Mais voilà, Sergio Ramos, l'infatigable défenseur espagnol, et on connaît sa hargne. Le Borussia Dortmund donc qualifié grâce à ce doublé de Serhou Guirassy, l'international guinéen.
Ça a été difficile. C'est une très bonne équipe avec des joueurs très expérimentés comme Sergio Ramos. Je pense que nous avons fait une très bonne première mi-temps. Et comme nous avons gagné, tout le monde est heureux ce soir. Je pense que j'aurais pu marquer un troisième but, au moins. Mais je suis heureux d'avoir pu aider l'équipe encore une fois. Contre le Real Madrid en quart de finale, je m'attends à un match très difficile car eux aussi voudront poursuivre l'aventure ici. Mais nous serons préparés.
Il était prêt. Carlos, qu'est-ce que vous pensez de ce buteur, Serhou Guirassy ? Vous vous souvenez, pendant la Ligue des Champions, il a terminé co-meilleur buteur, le joueur de Dortmund, avec Rafinha. 13 buts en 14 matchs.
C'est pas mal. Hein.
Je pense que pour le football allemand, il est très fort, parce que c'est un football assez direct. Il faut voir, parce qu'à la fin, il va être obligé à partir de Dortmund. Bon,
mais c'est sa première saison pour l'instant, donc il va sûrement y rester.
Ils sont qualifiés en Ligue des Champions, donc il y a des chances qu'il reste.
Oui,
ah oui, je pense
même,
qu'il
si, même s'il intéresse des clubs. Il intéresse des clubs.
Mais c'est un joueur qui est partant. Mais il faut voir où est-ce qu'il va tomber, parce qu'on ne connaît pas
quel genre de joueur vous trouvez qu'il est ? Quel genre de buteur ?
Il a beaucoup de qualités.
Il est très grand.
Il est grand.
Hein. Oui. Et il n'est pas très rapide. Mais il fait peser son corps. Mmh. Et ça, c'est très important dans les 18 mètres. Parce que dans les 18 mètres, il ne faut pas être un petit gabarit. Hein.
Mmh. Et on a vu hier, Nabil, l'entente aussi entre lui et Adeyemi.
Oui, Adeyemi, que j'aime beaucoup. Moi.
Oui, qu'on a
gaucher,
évidemment...
Gaucher, frénétique, avec une conduite de balle. De la rapidité, c'est vrai qu'il tourne un peu autour. Guirassy, c'est un attaquant complet. On n'en est plus à se dire... parce qu'à un moment, il y avait un peu... Comme il est passé par la Ligue 1, il n'a pas non plus flambé de manière incroyable. Il y a eu quelques soucis avec Genesio, ça n'a pas matché. Il est parti, enfin, il connaissait
Amiens
déjà l'Allemagne.
Amiens aussi, il a été
Amiens, Laval, Auxerre. Donc il a un peu baroudé et il arrive à maturité. Et il a le champion, je suis d'accord avec Carlos, il a le championnat qui lui correspond, qui est le championnat allemand, c'est-à-dire assez box-to-box, assez débridé, avec des équipes qui vont vite. Mais il démontre quand même des qualités de finisseur et un relâchement des meilleurs, en fait. Parce qu'en fait, Il est aujourd'hui très régulier et il n'est pas régulier seulement qu'en Allemagne. Vous avez eu raison de rappeler qu'il avait mis 13 buts en Ligue des Champions. Donc, on ne peut pas dire
et,
en gros...
Et il reste comme meilleur buteur alors que Dortmund sort avant
sort. Et il met un triplé marquant dans les esprits face au FC Barcelone. Donc aujourd'hui, concrètement, il peut jouer partout. Il peut jouer à Barcelone, il peut jouer au Bayern, il peut jouer à Tottenham, il peut jouer à... En fait, si vous voulez, c'est un des 5 meilleurs attaquants européen au poste de numéro 9.
Il faut qu'il ait la chance de tomber dans un club qui joue pour l'avant-centre. Parce qu'il y a des équipes qui ne jouent pas pour l'avant-centre.
Ah ben c'est sûr qu'au PSG, il ne pourrait pas y jouer. Non. D'ailleurs il y a un moment, une fausse rumeur qui est sortie.
Il y en a beaucoup, ouais.
Genre, oui, le PSG s'intéresse à Serhou Guirassy, ce qui était absolument faux, puisque de toute façon, on voit bien comment joue le Paris Saint-Germain. Je ne dis pas qu'il ne peut pas jouer au PSG, mais en tout cas, il ne s'épanouirait pas autant.
Non.
Ludovic. Manchester City, il ne joue pas non plus pour l'avant-centre.
Non.
Mais il a eu besoin de lui pour être champion d'Europe.
Bien sûr, tout à fait. Bien sûr.
Exactement.
Pour être champion d'Europe, il a eu besoin de lui.
Ludovic, ce match entre le Borussia et Monterrey, finalement, c'est la logique qui s'est imposée.
Oui, on a,
ce 2-1, malgré tout,
a très très bien commencé le match. Sur la première demi-heure, ils ont été très dominants. Ils ont marqué ces deux premiers buts. Ils auraient dû en marquer même un troisième, un quatrième. Guirassy a d'autres occasions très nettes. Mais après, on a vu une équipe de Monterrey qui a vraiment été très intéressante, ouais. Qui est revenue dans le match avec là aussi un dispositif qui a évolué. Et des joueurs comme Corona, Berterame,
un vrai virus
Sergio Ramos derrière, qui est un vrai patron. Et ça a été très intéressant. Et jusqu'à la fin, c'était très serré. Donc non, on a vu vraiment c'était un bon match. Ouais. C'était un bon match et sur l'ensemble de la partie, Dortmund a quand même mérité de passer. Ouais.
Alors seul ombre au tableau pour certains, on verra pas les deux frères Bellingham face à face.
Ouais. Non, il a fait
parce que Job Bellingham lui jouera avec le Borussia, mais Jude a commis une erreur de trop.
Non, l'inverse. C'est Job qui jouera pas de Dortmund et Jude jouera avec le Real Madrid. Et en fait, il fait une erreur de débutant. Il a 19 ans. Il va faire une faute sur la touche qui s'impose pas du tout. Et à la fin, après, il réalise que du coup, alors qu'il y avait déjà 2-0, il réalise qu'il va pas jouer. En fait, il est privé de quart de finale et il est effondré sur le terrain parce qu'il se dit, oui, c'est mon frère, c'est le Real Madrid. Je vais pas. Et il est sorti au bout d'une heure, une heure et quart, parce que je pense que dans sa tête...
C'est fini, il n'était plus là.
Mais non, parce qu'il s'est rendu compte de son erreur. Mais soi-disant passant, c'est un super joueur. Il a un talent fou, il n'a que 19 ans. Et derrière Adeyemi et Guirassy, franchement, c'est un super joueur.
Un Bellingham peut en cacher un autre, donc du côté de Dortmund.
Très bon joueur.
On verra ça. On reparlera évidemment de cette affiche Real Madrid-Borussia Dortmund. Mais en attendant de dresser un bilan et d'évoquer ce qui va se passer du côté des États-Unis après ce mondial des clubs, eh bien, un peu de musique Kororoko. C'est un groupe anglais, Just Can't Wait. To the stars. Les Anglais de Cocoroco, ça s'appelle Just Can't Wait et c'est sur la playlist de RFI Musique.
Welcome to a new adventure in international club football. Welcome to the 2025 FIFA Club World Cup.
Fini le premier tour avec la phase de groupe, puis celui des huitièmes de finale. Alors, quel bilan en tirer ? 5 clubs européens sur 8, Carlos, qui sont qualifiés. Il reste encore 2 Brésiliens et puis le fameux, désormais, qui a sorti voilà, Manchester City, Al Hilal.
Les plus riches sont là. Pardon.
Écoute, pour la tête de mes 5 enfants, petits enfants, j'ai 5 petits enfants, je vais aller dire la même chose. C'est la puissance économique qui arrive à la fin. Parce qu'en Amérique, les clubs brésiliens, ils ont 3-4 fois plus d'argent que les Argentins. Les Arabes, ils ont de l'argent.
Ça excuse tout, Carlos.
Tous, moi, j'ai pas,
quand
j'ai
même
pas
le niveau de Boca et de River, là, c'était quand même c'était pas terrible du tout.
Non, mais Boca, Manchester City, sont plus
jeunes. Économiquement,
non, mais je parle du. Non, mais moi, Carlos, je veux bien qu'on parle d'argent, mais je parle du jeu. Le niveau de Boca et de River, là, sur cette compétition.
Moyen.
C'était trop moyen.
Oui, je sais.
Il y a une belle ambiance.
Ils ont fait match nul contre Auckland. Ça, c'est pas sérieux.
Ça, tu peux pas faire ça.
Non, mais même River, au niveau du jeu, c'était vraiment décevant, non? D'accord.
Alors, vous parlez du niveau de jeu. Eh bien, il y a un observateur attentif de cette compétition, pas forcément objectif, vous allez l'entendre, qui a son avis sur ce mondial des clubs. CR7, la star du championnat saoudien.
Bien sûr qu'on continue de s'améliorer. Je pense qu'en ce moment, on fait partie des 5 meilleurs championnats mondiaux. Et on continue de s'améliorer. Depuis 2 ans, on montre que la Saudi League monte de niveau sans arrêt. Je suis heureux car je sais que cette ligue est très compétitive. La plupart des gens qui n'y ont pas joué ne comprennent pas le niveau de cette ligue. Dans les 5 meilleures ligues, à 100%. Et les gens qui y jouent savent de quoi je parle. C'est pour ça que je veux y rester, car je crois au projet.
Carlos, on parle d'argent, mais est-ce qu'il y a un certain nivellement aussi aujourd'hui avec tous ces joueurs, par exemple ceux d'Al Hilal qui ont évidemment déjà joué en Europe, qui connaissent les championnats, qui connaissent le football? Est-ce qu'il y a un nivellement entre les équipes et qu'on le voit dans ce mondial des clubs?
Moi, je vous dis la vérité, le niveau, ça ne me plaît pas tellement.
Pourquoi?
Non, parce que moi, je ne comprends pas de jouer la Coupe d'abord.
Ce mondial des clubs?
Oui. Mmh. Et ce qui m'étonne à moi, c'est que comment c'est la Fédération de football internationale des joueurs de football, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas ouvert la bouche. Quand je vois qu'à côté du président de la FIFA, il y a des grands joueurs, des ex-grands joueurs, s'ils auraient bien voulu jouer pendant les vacances.
Ça, c'est la
Alors,
question.
Alors, moi, c'est... Non, je ne peux pas parler trop de la Coupe parce que je n'ai pas vu autant que vous avez vu.
Nabil, sur ce que dit Cristiano, c'est-à-dire, bon, alors les Saoudiens, on n'est pas encore au top, mais on est en train de grandir. Est-ce que, selon vous, il y a un nivellement, ou pas vraiment, ou simplement...
Il y a une photographie de ce qu'est le football mondial aujourd'hui. On parlait de la répartition des richesses. Évidemment, elle rentre en ligne de compte. Les meilleurs, c'est les Européens. Ils sont contestés, entre guillemets, par les Brésiliens qui profitent aussi du calendrier puisqu'ils sont en pleine saison, donc ils sont dans des états de forme supérieurs. Et puis derrière, y a les Saoudiens, j'en ai parlé, mais les Africains au final, ils sont à peu près à leur place. Les Africains sont meilleurs en sélection nationale parce qu'ils ont des joueurs qui jouent dans des clubs européens, ce qui permet de venir contester les Européens ou les Sud-Américains, comme on l'a vu sur la dernière Coupe du Monde. Mais Al Hilal, eux, c'est réussi, parce qu'en fait, ils ne jouent pas que pour eux, ils jouent aussi pour le crédit du championnat d'Arabie Saoudite. Tu prends Al Hilal, juste Al Hilal, tu prends leur budget, tu prends le budget de l'Espérance, du Wydad, de Mamelodi Sundowns, de Ali, je suis persuadé que s'ils n'arrivent pas à la moitié du budget du club saoudien. Donc, il y a un moment, ce qui fait la différence, ok, tu peux avoir le logiciel de jeu, tu peux bien travailler, tu peux être sur des cycles, mais à un moment, c'est la qualité et c'est l'argent. Et là, c'est clair.
Ludo, vous qui commentez
les
matchs.
Moi, j'ai du mal à suivre Carlos et Nabil. Je trouve que sur les clubs argentins, sur même les clubs africains, je trouve qu'il y a eu des manques. Ils n'ont pas été au niveau. Je pense qu'Al Ahly n'a pas été à son niveau. Je trouve qu'ils auraient dû proposer autre chose. Mamelodi, ils ont été tout près de passer. Ouais, ils auraient presque mérité de continuer.
Donc, ils sont à leur place, en fait. Derrière les Européens et les Brésiliens.
Alali n'était pas à sa place. Je pense qu'ils méritaient de. Enfin, ils auraient dû passer. Je pense que dans la performance, ils n'ont pas été bons. Et après, on retrouve des clubs, oui, les Brésiliens, les clubs européens. Al Hilal a fait un match assez incroyable contre Manchester City. Donc, moi, je trouve qu'il y a une. Oui, je pense que le nivellement, il va plutôt vers le haut, si c'était la question. Et moi, j'ai vu plein de matchs intéressants. Et cette confrontation entre différents continents, entre des clubs d'Asie, entre des. Moi, ça m'a passionné. J'ai trouvé ça. Très intéressant. Il y a le problème du calendrier, ça tout le monde le dit et tout le monde a raison. Mais après, sur ces confrontations
sur ce
et les joueurs
sur
entre
les
eux, c'était vraiment intéressant.
Alors, avant de conclure autour de ce bilan et de se projeter sur ce qui se passera, puisque c'est quand même aussi un test, ce Mondial des clubs aux États-Unis, Thomas Saint-Léger dans ce studio. Bonjour Thomas.
Bonjour Annie.
Thomas, vous y étiez. Alors, on n'est pas beaucoup dans ce studio avoir eu le privilège ou la chance d'y aller à ce Mondial des clubs. En tout cas, vous avez fait le match d'ouverture, vous êtes allé aux États-Unis, vous vous êtes promené dans ce pays pour produire du reportage et des reportages. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu et senti du Mondial des clubs.
Alors, dans le périmètre des stades, il y a une vraie ambiance mondiale, comme une Coupe du Monde des Nations, finalement, avec, c'est vrai, ces rencontres entre supporters. C'était hyper sympa. Les supporters de l'Inter Miami, les supporters d'Al Ahly, hyper présents.
Le premier match.
Ça, c'était le match d'ouverture, effectivement.
À Miami.
Donc, on sent une ambiance de compétition, de fête, bon enfant. Dans les stades, bon... on va pas dire que c'est assez spectateur le public américain finalement. Évidemment, quand les Brésiliens sont là, quand les Égyptiens sont là, voilà, quand les Argentins sont là, ça chante.
50 000 supporters Boca Juniors.
Voilà. Donc ça c'était c'est peut-être là la cohérence de cette compétition, avec aussi la cohérence de faire rencontrer, Ludovic le disait tout à l'heure, des clubs du monde entier. Ça c'est vrai que c'était plutôt sympathique. Maintenant, à l'extérieur du périmètre des stades. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a une compétition. Moi, j'ai rencontré des gens dans les villes des compétitions, les villes dans lesquelles...
Les villes hautes,
les villes hautes, qui n'étaient pas au courant de l'existence de la compétition. Donc, c'est vous dire le décalage.
C'est comme un festival culturel dans une ville, dans un coin, tu débarques et... t'apprends qu'il y a un festival culturel.
C'est un peu ça, mais alors un festival mineur. Parce que
ça dépend, Avignon,
là on parle quand même du football, du sport.
Parce que moi, ça m'est arrivé de débarquer dans des villes et on dit il y a le festival de machin.
Les journaux américains, ils ne parlaient pas, ils n'ont rien.
Ça titre pas sur la Coupe du Monde des clubs. Ça peut titrer, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, sur des sorties de Donald Trump en marge de la compétition. Mais ça ne titre pas sur même le match d'ouverture entre l'Inter Miami et Al Ahly. Après, vous prenez un pays qui est un continent, donc c'est toujours compliqué d'avoir une photographie exacte.
Oui. Mais au Brésil, en 2014, on savait qu'il y avait la Coupe du Monde.
Voilà,
c'est un pays continent.
C'est un pays de football. C'est
un pays continent.
Je me retrouve dans un restaurant. Alors, de New York est bien sûr une ville immense. Le stade en plus n'est pas exactement à New York, mais à parler avec d'autres clients du restaurant, de sport, de politique, d'un peu de tout. Et au bout de 40 minutes, la personne me demande, mais en fait, vous êtes là, pourquoi exactement? Je lui explique, la Coupe du Monde des clubs de football. Ah, cette compétition a lieu en ce moment chez nous, du soccer. Ah d'accord. Mais à côté de ça, vous avez des gens passionnés, évidemment plutôt d'origine latino-américaine, qui eux vivent l'événement vraiment. On voit bien sûr à Miami,
c'est pour ça qu'à Miami
des maillots de Lionel Messi, il y en a partout.
Ouais, en Californie. Ouais.
Voilà.
Kevin Vessière, justement, vous, en préparant l'émission, vous me disiez aussi que c'est pas pour rien qu'elle n'est pas très présente aux États-Unis, cette compétition. D'abord, la retransmission des matchs qui est limitée. Et ça, c'est déjà
C'est vrai que ce qui avait été évoqué, c'est qu'au niveau de... Donc, on n'a pas l'impression qu'il y a cette compétition aux États-Unis, mais après, je crois qu'au niveau de la diffusion, au niveau des télés américaines, c'est pour retrouver cette Coupe du Monde des clubs, il faut vraiment vouloir la chercher. Et après aussi, même, je crois que pour une ville comme Miami, où il y avait quand même... des supporters qui sont quand même assez importants, puis beaucoup de maillots de Messi, il y avait très peu d'advertising autour de la compétition. Et par la suite, c'est aussi la question qui se pose, c'est que même par rapport aux fans de soccer, comme on l'appelle aux États-Unis, dans le même temps, vous aviez la Gold Cup avec la sélection des États-Unis qui devait en tout cas performer et se préparer pour être performant pour la Coupe du Monde. Donc ça posait aussi la question de mettre cette Coupe du Monde des clubs en même temps qu'une compétition internationale avec les États-Unis et qui se déroulait aussi aux États-Unis.
Et le championnat des États-Unis continue à se dérouler aussi, MLS, le championnat de MLS.
Mais je dirais pas dans l'indifférence non plus, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi évidemment, et c'est ça le sujet, la concurrence avec d'autres sports qui sont plus historiques dans ce pays-là. Et les finales NBA, c'était exactement au moment du début de la Coupe du Monde des clubs. Donc vous allez dans les restaurants, dans les bars, la télé, elle diffuse pas Inter Miami à l'Arkley. Elle diffuse Indiana Pacers Oklahoma. Oklahoma, voilà.
Ouais, pardon. Donc, Oakland, c'est ceux qui ont pris 10 ans.
Ouais, voilà. Bah alors, Oakland, vous pouviez voir le match, et d'ailleurs, je l'ai vu à l'aéroport. Ah, ouais. À l'aéroport.
Lequel, ceux où ils prennent 10-0, là?
Ouais, ouais, le Bayern. Le Bayern, effectivement.
C'est un des événements de la compétition.
Je suis en transit de Miami à Atlanta, et à l'aéroport, c'est la seule fois quasiment que j'ai vu quelque chose autour de la compétition. Il y avait un petit panneau avec des télévisions, et puis la diffusion du match, et des gens qui ont dû se dire, mais c'est quoi ce sport? Il y a une équipe. Il y a deux sports, il y a deux clubs qui jouent à un sport différent sur le même terrain.
Alors justement, on va continuer sur cette discussion parce que cette Coupe du Monde, ce Mondial des clubs, eh bien, il sert à la Coupe du Monde pour l'année prochaine.
Any questions for Johnny?
US is coming up. US is coming. Watch the US. Some very, very good players playing in Europe, but we need to bring them back here.
So can the US win?
The U.S. can win, yes, with the public behind.
See?
They play in some of the top teams.
He knows.
Yeah. They play in some of the top teams.
There's a shot, right?
Yeah, there is a shot, absolutely, yes.
That's great. Well, we'll hold that up.
Kevin Vessière, en mars dernier, le président de la FIFA est allé présenter le trophée de la Coupe du Monde à venir à Donald Trump, qui venait d'être élu. Alors, rappelons qu'il était quand même à sa prise de pouvoir aussi, donc c'est deux hommes qui se connaissent. Et tout d'un coup, Trump pose cette question, est-ce que les États-Unis peuvent remporter la Coupe du Monde? Et bien sûr, il a dit oui.
Oui, après, de toute façon, avec Donald Trump, il faut toujours jouer un peu un jeu de... Si on veut pouvoir lui parler, il faut toujours jouer un peu un jeu de séduction dans un premier temps. Et puis après, Infantino est quand même très proche à chaque fois des élus politiques qui organisent la compétition. On avait pu le voir avec Vladimir Poutine, on avait pu le voir avec l'émir Altani. Et là, c'était aussi le cas, même si dans les faits, les États-Unis ont très peu de chances de remporter cette Coupe du Monde. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand il a présenté ce trophée de la Coupe du Monde des clubs, c'était aussi une volonté pour Trump de créer ce qu'il appelait une task force autour de la Coupe du Monde 2026. Et dans cette task force, il y a beaucoup de photos qui l'illustrent. Vous avez beaucoup de drapeaux américains qui sont autour et la participation du Canada et du Mexique sont totalement mis sur le côté. Donc, c'est ça qui pose la question, c'est qu'en fait, cette Coupe du Monde 2026, ça va véritablement plus servir Trump et son régime politique. Et ça gêne pas véritablement la FIFA et notamment Infantino.
On va les entendre, ces deux personnages qui dirigent les États-Unis, Donald Trump, le président, et son vice-président, évoquer justement l'échéance de la Coupe du Monde.
Ensemble, nous ferons en sorte que la Coupe du Monde 2026 soit le tournoi de foot le mieux organisé que le monde n'ait jamais connu.
Bien entendu, tout le monde est invité à venir assister à cet événement incroyable. Je sais que nous aurons des visiteurs, venant probablement de près de 200 pays. Nous voulons qu'ils fassent la fête, nous voulons qu'ils regardent les matchs. Mais quand le temps se sera écoulé, ils devront rentrer chez eux. Sinon, ils devront s'adresser à la secrétaire à la sécurité intérieure, Christine Noem.
Alors là, il faudra bien rentrer chez soi après la Coupe du Monde, mais est-ce que déjà on pourra arriver les délégations, sans doute, mais les supporters, c'est aussi ça la Coupe du Monde. On l'avait vu au Qatar, ce mélange, vous parlez de mélange de supporters, Thomas, alors sans doute que là c'est des gens du cru pour beaucoup, mais pour la prochaine Coupe du Monde, en plus avec 48 équipes, ça veut dire 48 fois plus, 48 fois des supporters.
Mais après là-dessus, il y a eu une réunion de cette fameuse task force au mois de mai, mais elle a été un peu précipitée parce qu'il y avait pas mal de signaux au niveau des États-Unis qui mettaient un peu le holà par rapport au fait qu'il y a des décrets qui sont sortis de la part de Donald Trump sur la partie des deux pays et qui étaient interdits de venir, en tout cas sur le sol américain, à travers des questions autour des visas. Et donc, cette question-là se posait, en tout cas, par rapport à cet accueil-là. Donc, je pense que ce qui va être fait, c'est que, comme pour, ça a pu être le cas, notamment pour la Russie, il va y avoir des visas qui, spéciaux qui vont être mis en place durant la compétition. Mais comme ça a été évoqué là, durant la réunion, je crois que c'est Jid Evans, le vice-président, qui exprime cela. C'est un peu sur le ton de la plaisanterie, mais c'est finalement quand même...
Ça témoigne
en tout cas de la vision, c'est de dire... Les supporters, ils viendront le temps de la compétition, mais après, une fois que la compétition est finie, vous partez, quoi. Vous venez pour la compétition, pour dépenser votre argent, et puis après, vous partez derrière, quoi. Et par contre, c'est juste que c'est ce qu'ils font d'habitude, mais là, c'est dit avec un certain sarcasme qui témoigne un peu de l'administration Trump et de sa vision du monde, quoi.
Il y a trois pays co-organisateurs, théoriquement. Est-ce que Trump et les États-Unis prennent le pas sur cette co-organisation ?
Oui, très clairement. Après, sur l'organisation en tant que telle, sur les 104 matchs, je crois, vous en avez 76 qui sont organisés aux États-Unis. Vous avez, je crois, seulement deux sites au Canada, deux sites au Mexique. Mais là, il y a quand même une volonté politique.
Alors qu'il y a 16 villes hautes. Hein.
Oui, c'est ça. Mm. Alors que là, il y a quand même une volonté politique qui témoigne à travers cette task force, à travers les déclarations de Trump, à travers le fait que Infantino s'est beaucoup mis en scène avec Trump. On a moins vu ça avec le Premier ministre canadien ou aussi les pouvoirs au Mexique. Donc, il y a quand même une forte tendance de montrer que cette Coupe du Monde sera très marketée aux États-Unis et très, en tout cas, autour de la personnalité de Trump, après avoir si elle sera instrumentalisée au nom de la compétition.
La Coupe risque d'être rapidement pleine. Hein, mais...
C'est ça. Mais...
La finale, c'est chez lui, en plus.
Oui.
Finale,
c'est mais est-ce que ça a été Vegas, choisi dans...
Non, à New York.
C'est au nord de New York.
Ouais, à 10 kilomètres à vol d'oiseau, 10-15 kilomètres à vol d'oiseau.
Pas loin de la Trump Tower. Non.
Ah, il pourra regarder le match de sa tour.
Thomas, est-ce que vous avez senti déjà une attente ou une effervescence autour de la future Coupe du Monde, qui en plus est un numéro inédit? On parle XXL à la mode américaine, c'est-à-dire hyper grande. On passe de 32 équipes à 48. Un format nouveau, tout va être un peu nouveau. Est-ce que les États-Unis s'attendent à recevoir un événement inédit?
C'est encore loin. C'est sûr que chez les grands fans de soccer, donc on va parler de soccer, quelque chose qu'on attend avec impatience. Et il y a quand même une base importante, hein, non seulement de pratiquants et puis de gens qui s'intéressent à l'actualité du soccer, et d'ailleurs de plus en plus s'y mettent. Après, il y a la question, elle était vraiment sur les Américains ou sur leur les joueurs, les entraîneurs, parce que là vous avez énormément de
ceux que vous avez rencontrés.
Ouais, vous avez quand même énormément de déclarations qui évoquent certaines inquiétudes par rapport à la compétition, que ce soit sur le climat, les trajets,
avec leur protocole.
Les organismes vont être mis à rude épreuve.
Après, t'as eu il y a eu 6 matchs qui ont été interrompus, retardés, etc. Dans les 6 matchs, il n'y a qu'un stade qui sera concerné.
Donc Charlotte,
New York. Non, moi j'y étais. Et alors c'est assez impressionnant. Moi je peux vous raconter ça. Ouais. Vous êtes en plein match. D'ailleurs, il fait très beau.
Et subitement.
Et subitement, non.
Non, parce que c'est justement 13 km à la ronde.
Voilà. Alors c'est un stade. Il faut aussi préciser.
C'était
à New York. C'est aussi pour ça que cette problématique climatique, elle est importante. Ce stade, comme beaucoup de stades américains, est un stade très ouvert. Ce sont des stades de football américain qui sont souvent construits comme ça, sous forme d'anneaux.
Ovales.
Mmh. Voilà. Et donc, vous avez vraiment la chaleur qui tombe sur le terrain, vraiment. Mais on a déjà connu ça dans d'autres Coupes du Monde. Au Mexique, ça devait être sans doute la même chose déjà. Aux États-Unis
en 94 aussi.
Voilà, il faisait 38 degrés, je crois, pour la finale. Vous êtes dans ce stade, il fait très beau, très chaud. Et puis, tout d'un coup, une alerte, d'ailleurs, c'est un petit peu angoissant, une alerte vous dit qu'il faut évacuer le stade, des conditions météorologiques compliquées sont annoncées, mais on ne vous donne pas plus d'informations. En revanche, ça se fait très bien. C'est-à-dire que vraiment, les joueurs rentrent au vestiaire, les spectateurs doivent se dispersent et doivent, c'est ce qu'on nous dit, s'abriter où vous le pouvez. C'est un peu débrouillez-vous. Mais ça s'est plutôt bien fait.
Ça s'est bien passé.
Le stade, il s'est vide.
Ah, il s'est vide.
Oui, il
s'est
vide complètement. Obligé de faire sortir tout le monde.
Et donc, 2 heures plus tard, ça reprend. D'ailleurs, l'orage n'est pas tombé et il tombe au moment où tout le monde sort. Donc, c'était pas forcément une bonne idée pour le coup. Mais voilà. Donc
très peu de stades seront concernés. Je pense que On n'aura pratiquement pas ce genre de problème.
Je crois qu'il y a une étude, qui a démontré que quand même 12, je crois, des 16 stades pourraient être concernés par... c'est beaucoup. Ouais.
Là, j'ai vu le sketch à Charlotte, là, avec le match à 5 minutes de la fin qui est arrêté.
Benfica,
et les joueurs
Chelsea.
Qui reviennent 3 jours après. Chelsea, Benfica. Benfica non. Ouais. C'était incroyable.
C'est horrible pour le résultat. Kevin, est-ce que ce mondial des clubs... Donald Trump, évidemment, on l'a vu. Alors, on y faisait allusion tout à l'heure avec quand il a reçu ses joueurs de la Juventus qui étaient tous derrière lui, là, comme des écoliers derrière leur professeur à son bureau. Il voulait l'exploiter d'une certaine façon aussi. Mais est-ce que finalement, l'actualité internationale n'a pas un peu troublé le message qu'aurait peut-être voulu avoir plus fort la direction des États-Unis ?
Après, je pense qu'il a voulu l'exploiter, mais comme en témoigne la scène que vous avez décrite avec les joueurs de la Juventus, il ne connaît pas véritablement le football et le soccer comme il les dit aux États-Unis, donc il n'a pas pu déjà l'anticiper, l'exploiter pleinement. Et après, il y a eu le contexte international du fait que la guerre entre Israël et l'Iran et les États-Unis qui ont ensuite aussi attaqué, et le contexte aussi interne où il y a eu des manifestations pro-migrants, notamment en Californie.
Où
Trump a envoyé finalement l'armée alors que c'était pas de sa compétence, et donc ça a créé des tensions aussi au niveau interne. Donc couplé au fait que on parle peu de cette Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, ça plus en fait le calendrier politique de Donald Trump, ce qui fait qu'il a très peu pu exploiter cette compétition, peut-être lors de la finale, mais en tout cas pour cet avant-goût de cette Coupe du Monde 2026, c'est vrai que Trump l'a pas instrumentalisé comme il aurait pu le faire et comme on le connaît aujourd'hui.
Par contre, pense qu'il a saisi l'importance grandissante du soccer dans son pays.
Il a
compris que c'était important et je pense qu'il veut... Alors, rassembler, je sais pas si c'est le bon terme en parlant de Trump, mais il veut parler à un peu plus de monde. Alors, il fait un peu semblant. Il fait presque pas semblant. La scène, justement, avec les joueurs de la Juventus, il fait mine de s'intéresser, mais il leur demande « Alors, vous jouez aujourd'hui, c'est ça ? Ah oui, c'est où déjà ? Ah, bah, c'est ici. » Enfin bon, on voit qu'il regarde ça avec pas mal de distance, mais qu'il veut quand même s'en servir.
Après, tu sais ce qui s'est passé notamment en Californie, où était le Paris Saint-Germain lors des premiers matchs, avec notamment les manifestations, avec la répression très forte qui a eu lieu, avec beaucoup de gens qui ont été emprisonnés. Ça donne quand même aussi une très mauvaise image des États-Unis par rapport aux autres et par rapport aux joueurs qui viennent et qui se rendent compte que tout d'un coup il se passe des scènes délirantes aux États-Unis.
Kevin, donc c'est pas non plus une belle image, hein. En quelques secondes, la Coupe du Monde en 1994, est-ce qu'elle a vraiment créé quelque chose autour du soccer aux États-Unis ou on recommence à essayer de séduire les Américains ?
Ça a quand même permis de mettre quelques billes en tout cas pour cette compétition et ce sport-là. Il y avait eu la création de la MLS juste après. Là, on est dans un autre stade, d'avancement. Une autre dimension, mais après l'idée c'est effectivement de pousser ça pour que le soccer puisse grandir aux États-Unis.
Bon, on a l'impression que et Trump et Infantino s'y attellent. Merci beaucoup messieurs, on aurait pu en parler encore beaucoup plus de tout cela. On se retrouve demain, merci à tous.